toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Identity Trust Pulse, le podcast où l'on parle de lutte contre la criminalité financière et de lutte contre la fraude en ligne. Je suis Johan Uloa, directeur solutions consulting chez LexisNexis Risk Solutions. Et aujourd'hui, nous allons parler d'usurpation de compte avec Adrien Altounian, qui est analyste du risque cyber chez Intrinsèque.
Bonjour.
Bonjour Adrien. Et Raphaël Prévost, qui est analyste référent, également chez Intrinsèque.
Bonjour Johan.
En premier lieu, Adrien, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Oui, alors je suis en effet analyste du risque cyber chez Intrinsèque depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et mes missions, elles consistent principalement à récupérer ce que nos outils nous envoient de la surveillance du dark web et donc ensuite à analyser et à qualifier toutes les informations qui nous proviennent du dark web et qui pourraient concerner nos clients.
Raphaël ?
Pour ma part, je fais le lien entre le service de Cyber Threat Intelligence d'Intrinsèque et tous nos clients.
Alors, est-ce que tu veux bien nous dire 2 mots sur Intrinsèque ?
Alors, c'est une entreprise qualifiée de pure player en cybersécurité, donc qui fait uniquement de la cyber depuis une trentaine d'années. On couvre différents risques, notamment via plusieurs pôles en services managés, tels qu'un pôle d'évaluation, un SOC, un CERT de la CTI. Et on a aussi une partie conseil.
Alors, qu'est-ce qu'une usurpation de compte et pourquoi il y a un grand nombre d'utilisateurs qui se font usurper leur compte ?
Les comptes fonctionnent de la manière suivante. Chacun a un identifiant et un mot de passe. On a des comptes pour tout un ensemble d'activités, que ce soit professionnelles ou personnelles. Et ce sont des cibles de choix, puisque les couples identifiant mot de passe sont souvent assez faciles à deviner. Et énormément de gens cherchent à les voler pour pouvoir les utiliser à l'encontre des utilisateurs. Uniquement sur le mois de mars, les packs d'identifiants de 41 000 individus ont été mis en vente sur un seul des sites que nous surveillons. Donc c'est vous dire un peu l'ampleur du phénomène de vol et de revente de comptes.
Alors qu'est-ce qu'il y a dans un pack d'identifiants ?
Alors on y retrouve bien souvent donc un identifiant qui est souvent sous la forme d'un email. On retrouve aussi le mot de passe ou des cookies de session qui permettent de s'authentifier directement sans avoir à utiliser un mot de passe.
Pourquoi les mots de passe sont difficiles à gérer pour les utilisateurs ?
Les utilisateurs, comme vous et moi, ont du mal en fait à retenir des mots de passe différents pour chacun des sites et ont tendance donc à réutiliser le même mot de passe et bien souvent aussi la même adresse mail. Ce qui fait qu'une fois qu'on a récupéré le couple identifiant mot de passe d'une personne sur un site, bien souvent on va pouvoir le réutiliser sur tout un ensemble de sites bien classiques.
Alors, quelles sont les méthodes utilisées par les fraudeurs pour usurper des comptes ?
Alors, la première méthode, qui est la plus classique, c'est lorsqu'on a des attaques, bien souvent par ransomware, avec des grandes fuites de données qui vont en découler. Ces fuites de données se retrouvent sur le deep web, sur le dark web, et on peut les récupérer. Des individus mal intentionnés pourraient donc les utiliser à leur fin.
Ouais, on peut préciser peut-être que, en plus de la rançon qui est exigée et du chiffrement des données qui est réalisé, très souvent les attaquants exfiltrent un grand nombre de données qui ensuite vont se retrouver à la vente.
Tout à fait, c'est un peu la double peine en effet.
Alors, qu'est-ce qui rend cette méthode intéressante pour les fraudeurs ?
Eh bien, une fois qu'on a récupéré en fait le mot de passe d'une personne, lié à une identité, bien souvent un mail, on va pouvoir tester ce même mot de passe sur un grand nombre de sites marchands. Et on peut automatiser ce processus et ainsi récupérer des accès à de nombreux comptes dont on verra par la suite les risques associés.
Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui sont utilisées ?
Tout à fait. Dans des cas bien précis, on peut aussi faire du brute force, c'est-à-dire qu'on va tenter de deviner le mot de passe en se connectant à un site. Donc on est sur une mire d'authentification et on tente plusieurs fois des mots de passe différents. Il y a plusieurs techniques qui ont été développées pour ce faire, notamment celle qu'on appelle de la table arc-en-ciel de la Rainbow Table, qui consiste en fait à calculer à l'avance tous les hashes de mots de passe et donc à proposer ces mots de passe directement à la mire d'authentification pour essayer de gagner du temps et de la puissance de calcul. Ça va être utilisé dans des contextes en fait assez précis de phishing ou de spear phishing sur un utilisateur que l'on souhaite vraiment cibler.
Alors, on parle également beaucoup de stealers. De quoi s'agit-il?
Alors, les stealers, c'est quelque chose qui s'est énormément développé ces derniers temps et qui est en fait un petit logiciel malveillant, donc InfoStealer de son nom entier, qui en fait va venir récupérer les données qui sont sur le navigateur et qui va récupérer donc les jetons d'authentification, les cookies de session et puis parfois même les mots de passe lorsqu'ils sont enregistrés directement dans le navigateur.
Et comment les utilisateurs se font compromettre par ce type de logiciel?
Alors bien souvent, c'est très simple. Ça va être en ayant cliqué sur un lien malveillant, en ayant cliqué sur un lien voilà qui était dans un email, en visitant un site illégitime ou en téléchargeant un fichier, en téléchargeant voilà un jeu vidéo piraté, un film piraté. On peut voilà récupérer aussi un infostealer qui va être glissé parmi le fichier que l'on souhaitait télécharger.
Alors, il semble qu'il y a un certain nombre de fraudeurs qui se soient spécialisés dans la revente de services liés à l'usurpation de compte. Dans un premier temps, est-ce que tu veux bien nous décrire sur quel type d'environnement on va retrouver ces services?
Alors, on retrouve ces services sur ce qu'on appelle des marketplaces qui sont accessibles en fait très simplement hein, en allant sur le dark web. Il y a quelques sites qui sont bien connus, tels que Russian Market par exemple, sur lesquels on peut donc acheter en fait des couples identifiants mot de passe ou des cookies de session. On va retrouver en fait directement le contenu d'un infostealer qui est disponible à la vente pour un prix assez plus élevé de quelques dollars.
Et quels sont les services, quels sont les types de services qui sont proposés sur ces plateformes?
Donc, comme tu l'as dit, Johan, il y a en effet tous les services d'infostealer, mais ce n'est pas tout. On retrouve aussi des copies de bases de données, des dumps. On retrouve aussi des systèmes de lookup, par exemple à partir d'un numéro de téléphone ou d'une adresse mail, tout un ensemble d'informations qui vont être disponibles.
Oui, parce que ce qui est intéressant pour le fraudeur, c'est d'avoir accès au compte, mais également de disposer du numéro de téléphone de la victime pour pouvoir l'appeler et pour pouvoir la manipuler.
Exactement, en faisant appel au service d'un allotteur, par exemple, pour pouvoir faire de l'ingénierie sociale et ainsi aller plus loin dans la chaîne de corruption. Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que c'est un allotteur?
Un allotteur, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la manipulation de victimes à distance par téléphone. Donc à l'auteur comme allo en fait, donc il va juste quelqu'un qui va juste appeler des cibles et se faire passer pour un service client par exemple ou pour une banque et demander à la personne de valider sur son téléphone une opération bancaire ou de donner justement le code d'une authentification forte.
Alors, est-ce que vous avez observé des changements ou des évolutions au cours du temps sur les services proposés ou sur les méthodes employées? Adrien, est-ce que tu veux bien répondre à cette question?
Oui, bien sûr. Donc, on parlait des stealers et des marketplaces. Donc, le développement de ces marketplaces qui sont spécialisés dans la revente de comptes, enfin, c'est la plus grosse denrée qu'on va retrouver sur ces marketplaces-là, ça a permis du coup de développer l'écosystème des stealers. Puisque d'un coup, tous les stealers se trouvaient avec un endroit où ils pouvaient mettre en masse, balancer en masse tout leur gain et ensuite le monétiser. Donc le développement de ces marketplaces-là, ça a permis de lancer l'écosystème. Ensuite, ça marque aussi une sorte de spécialisation. Il y a les acheteurs, il y a les vendeurs de contenu. Mais aussi, ça permet de manière générale d'apprendre la spécialisation. Il y a celui qui développe le stealer, celui qui va le lancer, celui qui manipule l'infrastructure, celui qui va ensuite exploiter le contenu et puis appeler. Donc voilà, on voyait ça avec la loteur par exemple. Ensuite, ce qu'on remarque aussi ces dernières années, c'est un déplacement massif hein, du dark web vers Telegram. Donc Telegram, l'application de messagerie instantanée hein, qui est plus accessible, il suffit simplement d'un numéro de téléphone, pas besoin d'aller sur Tor, pas besoin de se connecter à des adresses un peu bizarres. Il suffit juste d'avoir un numéro de téléphone, télécharger l'application et ensuite. Cette accessibilité-là, on pense qu'elle a attiré des nouvelles générations de fraudeurs, probablement. Et c'est un marché plus volatile, il y a des groupes qui se créent, qui se suppriment.
Et la revente ou l'achat de services dans ce contexte-là sur Telegram se fait par quel biais?
C'est en fait, il y a des groupes où chacun va faire la publicité de son service et son service est disponible sur un canal. Donc c'est comme une page, c'est comme une page où seul l'administrateur peut publier des informations et donc ça va être sa boutique entre guillemets où il va publier. C'est aujourd'hui on a un arrivage de tant de groupes. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Il va mettre ses tarifs. Voilà, il y a une sorte il y a une sorte de professionnalisation entre guillemets où les fraudeurs ils vont imiter un vrai commerce en développant une image de marque, en développant un nom spécial pour que les clients puissent se fidéliser ou s'habituer.
Alors, quels sont les risques qui pèsent sur les particuliers et sur les entreprises?
Les utilisateurs, ils sont exposés à un vol de données personnelles, ils sont exposés à de l'usurpation d'identité, mais aussi à de l'ingénierie sociale et ils peuvent être victimes de campagnes de phishing suite à l'exposition de leur compte. Ensuite, les sociétés, ils sont exposés à des risques de dénigrement d'image, de perte de confiance des clients et des collaborateurs si on remarque la société en laquelle on plaçait notre confiance a été compromise, ça peut poser de problème. Il y a évidemment l'exposition de données internes confidentielles, la récupération de ces données à des fins malveillantes ou d'intelligence économique, d'espionnage bien sûr. Et évidemment, lorsqu'il y a une fuite de données, on s'expose aussi à des risques, des problèmes juridiques, puisqu'il faut déclarer la fuite de données à la CNIL dans les 72 heures. Et enfin, le risque le plus, on va dire, impactant, c'est le ransomware, bien sûr, où là, on a l'arrêt du système d'information en complet.
Alors, est-ce que tu peux nous citer quelques exemples d'usurpation de compte?
Oui, bien sûr. En termes d'usurpation de compte client, en fait, tout dépend de ce qui intéresse l'attaquant. Certains, ils vont simplement s'intéresser à une valeur qui est contenue, on va dire, intrinsèquement dans le compte, c'est-à-dire l'abonnement vers une plateforme de streaming. Donc l'attaquant, il va juste se connecter et profiter de votre abonnement pour consulter le catalogue. Ensuite, il y a aussi une autre forme de valeur auquel on peut peut-être moins penser, c'est les points de fidélité. Il y a des attaquants qui spécialisent dans se connecter au compte client d'un individu et puis profiter de ses points de fidélité et vider la cagnotte. Donc lorsqu'il y a une action comme celle-ci, les attaquants ils prennent soin de, une fois connectés sur l'espace client, une fois qu'ils ont trouvé le mot de passe, ils vont changer l'adresse mail de contact afin de ne pas éveiller les soupçons directement chez la victime, afin de procéder à leur petite manipulation. Et voilà, ensuite ce qu'ils vont trouver aussi c'est de la donnée personnelle. Donc la donnée personnelle c'est de la propriété, et puis ça permet à un cybercriminel de faire de l'usurpation d'identité. Donc par exemple, il y a certains espaces clients, on va retrouver des factures, et on sait que certaines factures, par exemple, elles peuvent servir de justificatif de domicile, ou elles peuvent servir à construire une fausse identité, et ensuite on va donc se retrouver avec notre identité qui a été usurpée pour autre chose. Et il y a également le compte client en lui-même, il peut être utilisé pour usurper l'identité sans aller ailleurs. C'est-à-dire que on va prendre l'exemple de la fraude au remboursement, qui consiste à faire croire à un commerçant que l'objet qu'on lui a commandé n'est pas arrivé, et donc demander, pour différents motifs, le remboursement de l'objet. Donc l'attaquant il se retrouve avec l'objet et l'argent, et donc il a eu l'objet gratuitement. Et évidemment, les plateformes commerciales, elles sont au courant de ce genre de fraude, elles s'en rendent compte en général, mais lorsque les poursuites sont engagées, elles peuvent être bloquées puisque en fait l'attaquant a fait cette fraude à partir du compte de quelqu'un d'autre, donc a usurpé l'identité de quelqu'un d'autre, et en fait il dispose de ce masque entre guillemets garanti par le compte qu'il a pu trouver. Donc
Et ça doit lui faciliter la fraude aussi, puisque en usurpant ce compte, il bénéficie de la bonne réputation du client qu'il a usurpé.
exactement. Et d'ailleurs, on le voit sur Telegram ou sur les forums. Dès qu'il y a une vente de compte avec entre eux, ils vont appeler ça un log histo. Un log, c'est-à-dire un compte histo avec un historique. Donc, c'est le compte de quelqu'un qui est, on va dire, client depuis 10 ans, qui a jamais posé problème. Et donc, le commerçant va plus accorder sa confiance et aura aussi, bien sûr, plus de mal à engager des poursuites envers quelqu'un, pour pas dommager l'expérience client.
Tu as d'autres exemples à évoquer?
Oui, alors j'ai des exemples, je viens de nommer des exemples qui pesaient sur les utilisateurs, mais les comptes collaborateurs aussi, donc les comptes des employés des sociétés, font aussi l'objet d'attaques et sont aussi très recherchés par les attaquants. Donc là, les problèmes, les risques qui pèsent sur l'usurpation de ces comptes-là, ils peuvent être plus graves pour les sociétés. Donc par exemple, il y a eu le cas d'une coupure d'Internet au début de cette année en Espagne, donc il y a eu une coupure temporaire. Et cette coupure, elle a été revendiquée par un hacker sur Twitter qui avait dévoilé un peu une partie de son schéma. Donc, il avait montré qu'il avait réussi à se connecter à un outil d'un fournisseur d'accès Internet grâce à une adresse mail d'un employé qui avait fuité. Donc, il y a des chercheurs en sécurité qui sont penchés sur ce cas-là et qui ont découvert que l'adresse mail et le mot de passe associé qui permettait de se connecter à l'outil avaient bien été mis en vente sur un marketplace. Et donc, ça prouve que ce hacker-là était même pas forcément celui qui avait au départ infecté l'employé. Il a simplement acheté l'accès quelque part sur un marketplace et a pu se rendre compte de l'accès dont il disposait. Donc, ça montre que l'ampleur de l'attaque, la gravité, va dépendre des privilèges auxquels un compte collaborateur exposé donne accès. Et il y a des groupes qui sont spécialisés dans l'élévation de privilèges. Donc là, ça nécessite des techniques qui sont bien plus élaborées que simplement se connecter à un compte. Et c'est quelque chose qui peut mener à terme à ce qui mène à terme en général à un déploiement de ransomware et à la fin de l'arrêt d'un système d'information.
Alors, quelles seraient vos recommandations pour limiter le risque pour les utilisateurs?
Alors de notre côté, ce qu'on recommande tout d'abord, c'est des bonnes pratiques. Pour les utilisateurs, on recommande d'avoir une bonne politique de mot de passe, donc un mot de passe complexe, qui n'est pas le même pour tous les sites sur lesquels on s'inscrit. La meilleure façon de gérer ça, c'est d'avoir un gestionnaire de mot de passe, puisque ça permet donc de se faciliter grandement la vie, de ne pas avoir à mémoriser des centaines de mots de passe.
Parce que effectivement, c'est un point important, un gestionnaire de mots de passe, qu'est-ce que c'est?
Alors, un gestionnaire de mots de passe, c'est un logiciel qu'on peut installer sur son ordinateur, même sur son téléphone aussi, qui peut être synchronisé entre les deux, sur lequel on va pouvoir générer un mot de passe et ensuite l'enregistrer. Et donc, le gestionnaire de mots de passe va retenir à ma place le mot de passe que j'ai utilisé. Comme ça, je n'ai pas besoin de le mémoriser, je n'ai pas besoin de le noter sur un carnet. C'est tout directement dans mon ordinateur, dans un coffre-fort sécurisé, chiffré en AES 256, s'il me semble.
Et donc, quelles sont tes autres recommandations?
Alors, mes autres recommandations pour les utilisateurs, c'est d'être globalement très méfiant vis-à-vis du phishing, notamment dans des périodes d'achat. On peut recevoir des messages disant que notre colis est arrivé. On peut recevoir tout un ensemble de messages, notamment à l'approche des Jeux Olympiques, pour des places gratuites, ce genre de choses. Donc, se méfier, ne pas cliquer sur des liens qu'on ne connaît pas. Et aussi faire attention au logiciel qu'on installe, plutôt que de prendre un site internet de redistribution du logiciel, puisqu'il peut avoir été plus facilement compromis.
C'est vrai que très souvent, quand on fait une recherche pour trouver un logiciel, eh bien souvent les premiers résultats ne correspondent pas au site officiel. Alors, il n'y a pas de méthode infaillible, mais ce qui est possible de faire dans ce contexte, c'est une recherche sur Wikipédia pour regarder sur la page du logiciel en question quel est le site officiel. Et plus généralement, il convient d'estimer quel est le niveau de risque associé aux actions que nous réalisons dans le domaine du numérique. C'est un peu comme devoir traverser une route. On va adapter son niveau de vigilance en fonction de la route à traverser. Bien, dans le domaine du numérique, c'est un peu le même principe. Quand on reçoit un mail, si l'on est invité à se rendre sur un site, son niveau de vigilance doit être fort. Et il doit être d'autant plus fort si le mail est anxiogène. Et on peut se poser cette question de niveau de risque dès lors qu'on doit rentrer de la donnée personnelle sur un site. Ok, donc on a évoqué la limitation du risque pour les particuliers. Et quid des entreprises? Comment Intrinsèque aide les différentes organisations à limiter ce risque?
Alors, j'aime beaucoup l'image que tu prends, Joanne, de traverser la route. C'est-à-dire, quand on était enfant, on nous a expliqué, bien souvent nos parents, pourquoi est-ce qu'il fallait vérifier avant de traverser la route. La première chose qu'on fait chez Intrinsèque, c'est qu'on donne à nos clients une connaissance des risques. On leur permet d'anticiper en leur donnant une visibilité sur les différents schémas de fraude qui existent et les différentes techniques utilisées par les attaquants. Donc on est vraiment dans l'anticipation pour qu'on sache, en fait, si je traverse la route, qu'est-ce que je risque. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ce qu'on va proposer, c'est tout un ensemble donc, de bonnes pratiques. Donc, on parlait là justement de politique de mot de passe via un gestionnaire de mot de passe. Mais autre chose qui est important aussi, c'est la séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Le fait d'utiliser le même ordinateur, par exemple, que ce soit au travail ou à la maison, ce qu'on appelle le BYOD, Bring Your Own Device, peut être risqué puisqu'on va avoir tendance donc à enregistrer toutes les informations professionnelles et personnelles sur le même ordinateur, télécharger des logiciels et donc multiplier le risque d'exposition à des infos stealers. On a d'autres bonnes pratiques. Il y a notamment tout ce qui va être de mettre en place de l'authentification forte. Donc tu en parlais, Johan, de l'authentification multifactorielle. Donc ça peut être tout à fait utile sur des mires d'authentification de services importants ou sur lesquels on veut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas d'usurpation de compte. On peut aussi fonctionner par liste blanche, en whitelistant certains accès, pour n'accepter des accès que par une certaine adresse IP. Donc quelqu'un qui aurait usurpé le compte ne pourra pas se connecter puisqu'il ne vient pas de la bonne adresse. Il y a aussi tout un ensemble de solutions de gestion d'accès et d'identité, donc on appelle l'IAM globalement, avec des services qui en font partie et qui permettent de sécuriser un système d'information.
Alors effectivement, l'authentification forte est indispensable pour limiter les risques d'usurpation de compte. Toutefois, il faut garder à l'esprit que cette authentification forte a des impacts sur l'expérience utilisateur et donc sur le business. Donc il convient d'utiliser des solutions telles que ThreatMetrics qui vont permettre de déclencher une authentification forte de façon très granulaire en fonction du risque. C'est ce qu'on appelle le Risk-Based Authentication, donc pour RBA. Cela permet d'exempter les utilisateurs d'authentification forte quand cela n'est pas nécessaire. D'autre part, ThreatMetrics rend possible l'utilisation d'un facteur d'authentification qui ne demande pas aux utilisateurs de réaliser des étapes supplémentaires. Je veux parler du StrongID, qui est un facteur de possession, et de BehaviorSec, qui est un module d'analyse comportementale gestuelle qui va vérifier que la personne qui est en train de s'authentifier est bien la personne qui a l'habitude de réaliser cette authentification de cette façon. Avant de conclure, Adrien, tu voudrais apporter le mot de la fin ?
Alors oui, on parlait tout à l'heure des nouvelles tendances des dernières années avec l'émergence de sites web et de marketplaces dédiés à la vente de comptes qui a permis l'émergence de tout ce système-là. Faut savoir que l'année dernière, il y a eu une opération conjointe des polices de différents pays qui a fermé un des plus gros marketplaces qui était Genesis Market. Et donc on peut espérer pour le futur une sorte de fin de l'âge d'or de ces marketplaces-là, puisqu'on l'espère que les forces de police continuent à viser les autres plateformes incontournables. Et on peut voir peut-être là-dedans un signe de la fin des stylers.
Bon, eh bien, Raphaël, Adrien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, si vous êtes intéressés par les aspects de veille proposés par Intrinsèque, eh bien, je vous propose de contacter Raphaël ou Adrien sur LinkedIn. Si vous êtes intéressé par ThreatMetrics, eh bien, je vous propose de me contacter directement également sur LinkedIn. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.
Merci, au revoir.